qui a à la fois été un grand écrivain de science-fiction, qui l'est toujours, et couvert de nombreux prix, est aussi quelqu'un qui s'est intéressé au fantastique de longue date, aux vampires, aux renards. Et donc, il ne s'est pas épargné les zombies, comme on le verra, dans un horizon de sang. Parmi nous aussi, un auteur de la nouvelle génération, Jérôme Noirès, qui a déjà un certain nombre d'or de vol littéraire derrière lui, des romans remarqués, et en particulier ce tout nouveau roman que j'ai reçu il y a quelques jours avant les Imaginales, Breadless, que j'ai lu en deux soirées d'une traite. Ça peut abréger mes nuits, mais ça peu importe pour l'auteur et les lecteurs qui sont ici présents. Et en tout cas, c'est signe que le livre m'a passionné et que je l'ai vraiment trouvé tout à fait épatant et renouvelant un peu le genre zombie. Emmanuel Berremard, qui est parmi nous, alors lui est anthologiste, il écrit aussi des textes, mais là, c'est l'anthologiste que j'ai voulu inviter particulièrement, puisqu'il a, l'an dernier, en lien avec le Festival Imaginal, publié une anthologie de zombies, et nous racontera si son flirt avec les zombies, c'est depuis tout petit. Parmi nous, un autre intervenant, qui n'est pas mentionné ici, tout simplement parce qu'il n'était pas au départ prévu, mais il a rajouté ce programme, c'est Denis Labbé. Ah ben si, ils ont réussi à mettre l'affiche. Denis Labbé, donc, qui a une série zombie, une trilogie, si je ne me trompe pas, ils l'ont rajouté, évidemment. Cette trilogie zombie, donc, on verra que ça devrait parler au Laura, puisque l'un des volumes en particulier, mais quelques éléments dans le premier déjà, se déroule à Lunéville, donc, dans notre bonne Lorraine. Et puis, enfin, évidemment, là, c'est comme on dit, mettre notre liste, notre ami MR, qui signe aussi parfois Mike Carré, notre invité britannique, qui est là tout simplement parce que, avant de découvrir ces deux romans précédents parus chez Brajlon, une fantaisie urbaine un peu humoristique, j'ai découvert il y a quelques mois celle qui a tous les dons, parue à la Talente, qui est une merveilleuse histoire de zombies. Vous verrez quand vous aurez lu son roman, vous pas Mélanie, la petite femme, puisque c'est comme ça que le traducteur a rendu le terme zombie. Et vous verrez que dans l'histoire, parmi ces personnages forts, le plus abominable n'est pas nécessairement le zombie. Voilà, petite présentation rapide, café littéraire zombie, du monstre à l'eau de soi-même, qui sommes-nous c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Par contre, je me suis intéressé dès le début de ma longue carrière avec un cas littéraire, puisque j'ai écrit sous le pseudonyme d'Alphonse Brut sur mes premiers fleuves noirs dans la collection Angoisse, qui était le reflux de la nuit. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les morts qui reviennent, quoi, dans une famille, effectivement, dans un cadre intime, dans un cadre familial. Et les morts qui reviennent, quel est leur effet dans la famille où ils reviennent? C'est qu'ils emmerdent, quoi. On ne sait pas quoi en faire de ces morts. Ils sont morts, non pas qu'on les ait oubliés, mais enfin, ils sont là en trop, ils sont un peu mauvais, ils prennent de la place, ben voilà. C'est ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les grands thèmes en général, c'est ce qu'on peut tirer de manière intimiste et de manière sobre de ces grands thèmes-là. Puis j'ai écrit plusieurs autres textes du genre, comme Le jour des morts, par exemple, qui est une novella, ou encore Une mort bien ordinaire, qui fait partie d'un de mes recueils. Mais j'ai jamais eu envie, à vrai dire, de traiter le genre du zombie, parce que chaque fois que je lis un livre sur les zombies ou que je vois un film sur les zombies, bon, la tétralogie ou la, je sais pas quoi, tous les films de Romero, par exemple, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi. Les zombies, c'est une menace imprécise, une menace globale, c'est une espèce de force irrésistible qui vous menace, qui vous envahit, qui vous dévore. Donc ça peut être une métaphore de tout ce qu'on veut, hein, de l'étranger, entre guillemets, du SDF qui vient s'installer chez vous, etc. Ça ne m'intéresse pas trop, ça, moi, l'aspect métaphorique de la chose ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment réagissent les gens, comment réagit une personne ou un couple, qui pourrait être moi, bien sûr. Chaque fois que j'écris une histoire, c'est le personnage principal. Il y a mes réactions, il y a mes pensées, etc. Et il y a quelques années, pas si longtemps, quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Daniel Conrad, voulait faire une anthologie sur les zombies pour sa revue Ténèbres. Évidemment, il m'avait demandé une nouvelle. J'avais commencé à l'écrire. Je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Bon, les zombies, allons-y gaiement, quoi, en prenant toujours comme modèle La nuit des morts vivants de Georges Romero. Et puis, en fait, l'anthologie, où c'est pas fait au numéro, la revue où elle devait paraître, n'a pas abouti. Et je me suis surpris, à mon corps défendant, quasiment, à prolonger cette idée de nouvelle en roman, voilà, c'est tout. Alors, encore une fois, c'est pas le zombie lui-même qui m'intéressait, comme dans The Walking Dead, c'est pas le zombie qui est important, c'est la réaction des personnages. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est quelqu'un avec sa famille, un homme qui est divorcé, puis il rencontre une autre femme, enfin, puis il se réfugie dans un espèce de fort militaire, de caserne qui est assiégé. Bref, c'était une menace arrive, ça peut être le zombie, mais ça peut être un rat de marée, ça peut être des extraterrestres, ça peut être une épidémie, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce quand on est menacé de mort, et que la mort vous entoure, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà, c'est ça qui m'intéressait dans le cadre du zombie, là, encore une fois, pas le zombie lui-même, qui est quelque chose de tout à fait informel et de totalement irréaliste en plus, quoi. Voilà ce que je peux dire.
Réflexion se pose des questions, comment rebondir quand presque tout était dit. Denis Labbé, vous êtes lancé vous aussi dans une, dans la trilogie, pas seulement un roman de zombie. Pourquoi vous êtes lancé sur ce sujet? C'est là aussi pour mettre en scène les personnages, vous interroger. Walking Dead, ça vous a donné l'idée, ou voilà, c'est venu comment?
Alors, bon, ça passe en personne et dur. Donc, en fait, l'idée m'est venue un soir en allumant la télé, je tombe sur le deuxième épisode de la première saison de Walking Dead. Et je vois un mec dans un char d'assaut, parce que je prends en plein milieu de, enfin, dans l'épisode, je vois un type dans un char d'assaut, je ne savais pas du tout ce que c'était, avec des zombies autour. Et d'un seul coup, j'ai eu une idée de roman. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de mettre ce mec qui est à l'intérieur, à quoi il pense. Et comment on pourrait réagir face à ces morts vivants? Alors, je suis aussi d'une génération qui a pu voir les premiers Romero quand ils sont sortis, qui m'ont terrifié. Le jour des morts vivants, zombies, quand ils sont à l'intérieur du supermarché, assaillis de toutes parts, évidemment, il y a toujours un couillon qui ouvre une porte. Et moi, je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire ça. Donc, je me suis lancé dans une série, mais je voulais faire quelque chose de différent. Ce qui m'intéressait, comme Jean-Pierre, c'est la réaction des personnages. je suis né à Lunéville, donc je connais assez bien le coin. Quand j'étais jeune, il y a un endroit des Vosges qui m'a terrifié, c'est le camp de travail du Strutthof. Et le télescopage des zombies, des camps de concentration et des gens qui étaient internés dedans m'a donné cette idée de roman, enfin de série. Et j'ai donc mis en place un voyage scolaire qui tombe mal. Donc il y a beaucoup de voyages scolaires qui se font au Strutthof dans le coin, ce qui est tout à fait normal. Je suis enseignant et je trouve ça absolument incontournable. Où les adolescents, les enfants sont confrontés à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, j'ai voulu justement que cette confrontation avec les zombies rappelle ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a un moment, l'épidémie apparaît à travers une expérience nazie qui refait surface et qui va déclencher cette épidémie. Et à un moment donné, ce sont des adolescents qui vont se retrouver enfermés à l'intérieur du Strutthof. Et donc, j'ai voulu retourner justement, c'est ce que l'on voit d'habitude, quoi, là, les enfants qui sont confrontés. Alors on le voit un peu dans Walking Dead avec le gamin qui grandit au fur et à mesure des saisons. Moi c'est ce qui m'a intéressé. Alors, j'ai fait une trilogie jeunesse parce que les éditions du Chat Noir me l'ont demandé, mais il y a une trilogie adulte qui a été écrite auparavant, enfin, plus qu'une trilogie, et qui devait paraître chez un éditeur, donc je préfère pas parler parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Et justement, là pour les Imaginales, je viens de signer pour la série adulte, chez Rebelle Édition. Donc voilà, la confrontation des horreurs de la Seconde Guerre mondiale avec le phénomène zombie, qui va évidemment déshumaniser des adolescents au départ, puis des adultes, et qui va permettre de confronter en fait des adolescents avec des autres eux-mêmes, parce que c'est leur, en premier lieu, c'est leurs amis qui sont transformés. Voilà.
Alors justement, Emmanuel Béramar, avec votre anthologie, vous êtes lancé dans le phénomène zombie. Si on prend votre petite présentation, vous dites que vous êtes né, je crois, 4 ans avant ou après la nuit des morts vivants de Réau. Après, vous êtes vraiment plus jeune que vous pensez encore. Et puis, vous êtes plongé dans toute une série de romans et tout, et donc c'est quelque chose qui vous a toujours plu, les histoires de zombies. Alors, pourquoi, quand on est anthologiste, on a envie de choisir des auteurs pour raconter des histoires de zombies? Avant que vous ne répondiez, je cite très rapidement des auteurs qui sont au sommet. Il y a des jeunes auteurs que vous découvrirez, mais aussi des gens qui ont été, qui sont encore cette année, invités à les Imaginales. Je ne citerai que Fabien Clavel, par exemple, Frédéric Lorient, Vanessa Terral et Ligam, et bien sûr Jean-Pierre Andrevaux. Donc vous voyez déjà une belle sélection. Alors pourquoi Emmanuel Béramar? Il y a plein d'idées, mais c'est vrai. Curieusement, en France, on n'avait encore jamais eu d'anthologie de zombies.
Non, effectivement. Pourquoi? Parce que j'avais du temps. Je me suis retrouvé au chômage et donc ma femme qui dirige les éditions Gris d'encre connaît ma passion pour les zombies et m'avait dit déjà, demandé plusieurs fois, pourquoi tu ne fais pas une anthologie sur les zombies? Non, je n'ai pas le temps, tout ça. Et là, je n'avais plus d'excuses. Donc, on s'est lancé dans l'aventure, une aventure qui a pris un an entre le moment où on a lancé l'appel à texte et l'apparition de l'ouvrage. Et pourquoi j'ai un peu Xavier Delot quand il parle de fantasy épique, parce que c'est cool. Parce que j'avais envie d'avoir d'autres histoires de zombies, pas forcément celles qu'on a vues en BD ou en roman, et avoir des histoires françaises, parce que des anthologies, il y en a beaucoup dans d'autres langues, notamment aux États-Unis, dont Mike a participé, entre autres. Et en France, il n'y en avait pas tant que ça, quoi. Il y avait quelques récits épars, dont ceux de Jean-Pierre. Il y a Fabien Calvel qui avait commencé à travailler justement sur des récits zombies. Et puis ça s'arrêtait un peu là, quoi. Il y avait des BD, effectivement, celle d'Olivier Perrul. Mais au niveau texte français, c'était un peu limité. Et l'anthologie, c'était le média rêvé de donner un exemple de texte très différent. les auteurs français.
Un extrait, on revient au roman de Mike Carré, Celle qui avait tous les dons. Là aussi, on est complètement dans le thème de notre rencontre du monstre à l'autre soi-même, entre Mélanie, la petite femme, la jeune zombie, maîtrise d'intelligence, et certains personnages humains, pas tous, on verra que certains sont dans le noir, d'autres dans plutôt le blanc et d'autres plutôt dans le gris, et que ça a bougé, pas pour tous, hein, pour certains d'entre eux. Eh bien, on s'interroge sur qui est le plus humain. En entendant les verrouiller les pas, Mélanie court vers la porte de sa cellule. Elle se met sur la pointe des pieds pour atteindre la petite ouverture grillagée et scruter les gens qui passent. Elle leur crie bonjour, mais ils ne sont pas censés répondre, et en général, ils ne le font pas. Sergent et son équipe obéissent à cette règle, ainsi que Mme Caldwell et M. Whittaker. Et comme Mme Selkirk passe très, très vite, sans jamais regarder dans la bonne direction, Mélanie ne peut pas voir son visage. Mais certaines fois, Mélanie a droit à un signe de la main de Mlle Justino ou un sourire rapide, furtif de Mlle Mailer. La personne qui fera court ce jour-là va tout droit jusqu'au fond de classe, pendant que l'équipe de sergents ouvre les portes des cellules une par une. Leur travail, c'est d'emmener les enfants à la salle de cours. Après, ils repartent. Ils suivent un protocole qui prend beaucoup de temps. Mélanie pense que ce doit être pareil pour tous les enfants, mais évidemment, elle ne peut pas en être sûre, puisque ça se passe à l'intérieur des cellules, et la seule qu'elle voit, c'est la sienne. Pour commencer, Sergent cogne à chaque porte en criant aux enfants de se préparer. Ce qu'il dit en général, c'est « Transit !» Et des fois, il ajoute d'autres mots. « Transit, bande de salopios ! Transit, on veut vous voir !» Son gros visage balafré s'encadre dans la vitre triagée et vous fusille de regard, en s'assurant que vous êtes sorti du lit et vous vous préparez. Et une fois, Mélanie s'en souvient, il a fait un discours, pas pour les enfants, pour son équipe. « Il y a des nouveaux parmi vous. Vous vous êtes empêchés sans la moindre idée de ce qui vous attend. » Mais d'où vous avez flanqué les pieds. C'est le résidu de fausse couche. Il faut que les jetons, hein. Eh bien, tant mieux. Agrippez-vous à cette peur qu'elle vous quitte de sa lumière. Plus vous les craindrez, moins vous risquez de merder. Ensuite, il a braillé. Transit ! Et heureusement, parce qu'à ce moment-là, Mélanie n'était plus sûre de savoir si ce qu'il disait, c'était que transit ou pas. Une fois que Sergent a dit transit, Mélanie s'habille très vite. Elle enfile la liquette blanche pour lui un crochet à côté de sa porte, un pantalon blanc aussi, pris dans le réceptacle creusé dans le mur. Comme on lui a appris à le faire. Elle pose les mains sur les bras du fauteuil, les pieds sur les repose-pieds. Elle ferme les yeux. Elle attend, en comptant. Le plus loin où elle est jamais arrivée, c'est 2526. Le moins loin, 1901. Quand la clé tourne dans la serrure, elle arrête de compter et elle ouvre les yeux. Sergent entre, son arme braquée sur elle. Ensuite, deux membres de son équipe arrivent pour boucler les sangles du fauteuil bien serré autour des poignets des chevilles de Mélanie. Il y en a aussi une pour son cou. C'est celle qu'il sert l'an dernier, quand elle a les mains et les pieds attachés partout. Ils le font toujours par derrière. La sangle est conçue pour qu'il n'ait jamais à passer les mains devant le visage de Mélanie. « Je ne vais pas vous mordre, » dit-elle certaines fois. C'est une plaisanterie. Sauf que l'équipe de sergent ne rit jamais. Sergent, si, il l'a fait une fois. La première, il s'était arrivé méchant. Et il a ajouté, comme si on avait laissé l'occasion, mon petit chou. Voilà, ça démarre quand même. C'est dans le début, hein. Page du roman, on démarre très très fort et on va aller en classe et on voit comment la petite fille est sanglée, etc. Et vous teniez à ce début comme
les chiens et zombies. Je vais vous donner un exemple, c'est comme le premier épisode de Walking Dead. Il y a cette femme qui revient toujours devant sa porte, en fait, là où elle habitait avant, et elle n'arrive juste plus à se rappeler pourquoi elle est liée à cet endroit, mais elle le sent quelque part au fond d'elle-même. Elle ne comprend juste pas ce qui lui arrive. Donc elle revient tous les jours à cette porte. Et justement, moi, ce que je voulais voir, c'était justement si on pouvait être capable de passer au-delà de l'aspect zombie et de répondre à ces enfants qui, eux, sont innocents, comme à des humains, finalement.
Je voulais une petite précision, Macaré. Votre roman est extraordinairement original sur ce thème et je pense que les lecteurs vont le découvrir avec beaucoup de bonheur. Il y a juste une question que je vais poser justement, c'est est-ce que votre petite fille anglaise, vos zombies anglais, est-ce que l'idée part quand même d'une nouvelle de Dan Simmons où on a une institutrice qui essaie de faire classe à des zombies complètement différents? Est-ce que vous aviez lu cette nouvelle avant d'écrire votre roman? Chercher le titre de la nouvelle de Dan Simmons s'appelle Photo de classe. Le seul point commun, c'est une institutrice et des zombies ligotés.
Voilà, mais c'est juste la réponse. C'était que non, je n'ai jamais lu cette nouvelle. Pour moi, s'il y a une autre histoire derrière la mienne, c'est plutôt celle de Frankenstein de Shelley. Pour moi, c'est vraiment le premier roman de zombies qui a été écrit. Parce que quand on y pense, c'est un monstre qui devient un monstre que parce qu'on l'a négligé, parce que son maître l'abandonne.
En arrivant à Badeauvillet, nous pensions être à l'abri et trouver un endroit où nous reposer avant de rejoindre nos parents à Lunéville. La fin du calvaire nous tendait les bras, ou du moins pensions-nous. Un petit bourg comme celui-ci devait posséder tous les atouts nécessaires pour un rapide retour à la normalité, il n'en fut rien. Lorsque nous entrâmes dans le village, le calme inhabituel qui nous accueillit nous fit comprendre que quelque chose de grave était arrivé. Une sorte de sixième sens qui s'était rapidement développé durant les journées que nous avions passées dehors nous alerta immédiatement. Une étrange atmosphère d'abandon régnait autour de nous. Des maisons typiques de la région ne s'échappaient aucun bruit du quotidien, aucun éclat de voix, aucun rire. Les fenêtres, fermées ou cloisonnées par des volets, témoignaient d'une absence totale de réveil, alors que l'heure tardive aurait dû au moins laisser apparaître un semblant d'activité. Jean-Michel fut le premier à s'en émouvoir. Je crois que quelque chose ne va pas. Sérieux, fit Cordelia. T'as trouvé ça tout seul? Il n'y avait pas la peine de me cacher, je faisais simplement une remarque. Il accompagna ses paroles du claquement métallique qui nous signala qu'il venait d'armer son fusil d'assaut. En entendant cela, je ne peux réprimer un frisson. Chaque fois que j'avais perçu ce son caractéristique, les scènes morbides avaient suivi. Restons sur nos gardes, dit Louis, qui scrutait déjà les environs. Nous n'allons pas tarder à savoir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton avis? Lui demanda doucement Nelly en se rapprochant de lui. J'ai pas envie de rencontrer un nouveau déshérent. Malheureusement, ma chérie, fit Mélina. Je crois bien que nous n'allons pas avoir le choix. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Reprit Nelly d'une voix plaintive. Elle n'avait pas tort. D'un geste du menton, notre ami nous indiqua une porte entrouverte sur un bras ensanglanté. Les errants étaient passés avant nous, abandonnant de leur sillage des monceaux de cadavres, prêts à revenir à cette effroyable semi-vie qui eût terrifié. Ne restons pas ici, fit Louis, il faut trouver un abri. Et de quoi manger surtout, ajouta Mélina. J'ouvre le chemin, dans sa Thibault. En avançant, on n'a pas décidé. Attendez une minute. Et signe dès que j'arrive au carrefour là-bas. D'accord, lui répondit Jean sortant ma dague. Reste bien visible, au milieu de la rue, de manière à ce qu'on te voie et que tu ne te fasses pas surprendre par un zombie. Alors, c'est le début du tome 2 de votre série, mais je voulais lire parce qu'on se retrouve, ceux qui sont originaires de la région, Badeauvillet, Lunéville, et donc là on a un zombie français. C'est vrai que souvent le zombie est quand même associé à un monde anglo-saxon. Et là, vous l'avez ancré dans votre. C'était volontaire, j'imagine.
Alors, c'était volontaire quand on me pose des questions. Moi, je disais, parce que certains critiques ont écrit c'est un Walking Dead de la française. C'est un Walking Dead sans supermarché, je voulais évidemment. Les supermarchés américains sont bourrés d'armes. Là, sont des ados, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Alors, il y en a un qui est armé parce qu'il faisait du softball, du tir. mais ça, il est complètement psychopathe. Alors, ils sont tous ces personnages sont inspirés pour mes élèves. Et je peux vous assurer que le Jean-Michel, il est pire que ça dans la vie. C'est un élève qui est maintenant en terminale, parce que c'est assez intéressant, parce que les personnages de cette trilogie, je les ai connus il y a 3 ans en seconde, et j'ai encore deux élèves en ce moment en terminale littéraire. Et je les ai vus grandir en même temps que j'écrivais le livre. C'est assez étonnant. Donc j'ai voulu faire quelque chose de français, sans armes. Alors ils se débrouillent avec ce qu'ils trouvent. La plupart ne savent pas du tout se servir d'armes. Ils suivent. Nicky suit, Mélina suit, etc. Mario, elle sort une dalle, mais elle s'en sort quasiment jamais. Donc il y en a un qui tire, quoi. Qui sait tirer, un autre qui essaie de faire pareil, et puis tire à tout. Parce que c'est bien dans les films, on les voit tirer dans les têtes de zombies, même si ça avance pas vite. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans mon deuxième tome. Tous mes zombies, et ça s'appelle d'ailleurs l'évolution, mes zombies ne traînent pas la patte, quoi. Pas tous. Donc il y a vraiment, il y a des évolutions. Je prends un côté, c'est un virus qui évolue et donc qui s'adapte au milieu. Et donc j'ai voulu faire des zombies à la française, donc dans les supermarchés, on trouve des boîtes de petits pois, mais on trouve pas de fusil mitrailleur en France. Donc là, ils se débrouillent du bord.
On va maintenant passer à Jérôme Noirez et Brendès, un petit extrait, et puis bien sûr, on va le soumettre comme tous nos autres invités à la question. Confidence de Jason. Il paraît que vous êtes curieux de savoir comment je suis mort. Vous allez bien vous marrer. Il y a tellement de façons de mourir à chaque instant de sa vie, tellement de possibilités. Certaines sont plus probables que d'autres. Maladie cardiaque, cancer, maladie infectieuse, accident de la route, domestique ou professionnel, suicide. Vous avez toutes les chances d'y passer d'une de ces manières. Si vous cherchez un peu plus d'originalité, succombez à une overdose. Faites-vous tuer en accomplissant votre devoir patriotique ou, si vous n'êtes pas le coup des voyages, juste devant chez vous, par votre voisin, qui vous a confondu qu'un cambrioleur. Il existe des sous-catégories. Dans la catégorie accident domestique, par exemple, vous avez à peu près les mêmes chances de vous briser le crâne en tombant dans vos escaliers, de griller dans l'incendie de votre maison, de confondre la bouteille de Nutrex avec celle de produits à récurer, de vous noyer dans votre piscine, votre baignoire ou vos toilettes, si vous aimez les acrobaties. Dans la catégorie maladie infectieuse, vous avez en revanche infiniment plus de chances de mourir à cause de la tuberculose ou du VIH que des suites d'une forme rare et mortelle de trypanosomiase. Je savais que j'y serais. Trypanosomiase, vous nous expliquerez, africaine. Ensuite, tout est affaire de style. Vous pouvez connaître une mort statistiquement originale, mais dans des circonstances banales. Vous sortez du supermarché qu'au sac de course, de gants sur le canard, sur le parking, paf, vous prenez le plateau dans la poitrine. On voit ça tous les jours à la télé. Ou au contraire, choisir une mort des plus classiques et qui vous frappera dans des circonstances extravagantes, comme ce type dont la voiture a explosé tandis qu'il rentrait du travail. Explosion causée par son porte-clés, une authentique grenade dans la sauter quand il est passé sans ralentir sur un dos d'âne. Oui, les crétins meurent souvent d'une façon plus amusante que les autres. C'est un peu le ton de votre roman, un roman de zombies où vraiment on s'ennuie pas.
On ne s'ennuie pas avec des zombies, enfin, jamais, on ne s'ennuie jamais de toute façon. Mais j'ai cherché le fait humoristique, mais pas seulement. Ça m'a passionné parce que je suis allé chercher les statuts. Je ne sais absolument pas en quoi ça consiste, la trypanosomiase. Donc, je sais par contre très bien prononcer le terme. C'est une saloperie de maladie tropicale aux effets désagréables. Tu connais non, mais les gens s'en foutent en fait. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'était par contre de me documenter sur les statistiques des morts. Je me suis intéressé aux décès dans un pays civilisé comme les États-Unis. Et c'est très instructif. J'y ai passé de longues heures comme ça, à comptabiliser les morts par tranche d'âge. J'ai un peu réexploité ça. J'aime bien les statistiques. Donc c'est ma dimension mathématique là, qui s'exprime dans ce passage.
Arrive à les motiver pour écrire des histoires de zombies. C'est vrai qu'en France, c'était relativement rare à l'époque. Encore.
Rare, mais je pense qu'on a beaucoup de fans quand même. Le phénomène zombie a explosé ces dernières années, notamment grâce au succès de Walking Dead, mais bon, c'était déjà présent avant. Et puis,
ce qu'il a travaillé. Et puis après, pour un auteur confirmé comme, comme Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as vu de répondre.
Oui, je ne sais pas quoi répondre, parce que c'est vrai que les zombies, encore une fois, ce n'est pas ma préoccupation première, parce que pour moi, c'était une force aveugle. Quand j'ai reçu l'appel d'offres d'Emmanuel, j'ai dit, je ne sais pas, si je trouve un truc, je te l'envoie, sinon, salut et bonne chance. Et puis, je me suis dit, quitte à me contredire, on va prendre les choses à l'envers, au lieu de considérer les zombies comme cette force, comme je disais tout à l'heure, un raz-de-marée, un tsunami. J'ai dit, je vais me rentrer dans le cadre, dans le corps, plus exactement, du zombie, qu'on présente avant qu'il soit affecté, puis après, puis comment la maladie évolue en lui. C'est pour ça que j'ai trouvé le truc de faire un texte à la première personne, où c'est un jeune homme ou un homme plus ou moins jeune, tout à fait banal, qui, voilà, qui est affecté. Alors il commence à avoir faim, il ne sait pas quoi faire, il commence à bâchouiller un peu sa grand-mère. Là, que, voilà, ce qui m'intéressait, c'était ça. Quoi. Qu'est-ce que fait un zombie quand il devient zombie par rapport à ses proches, par rapport. On se souvient très bien de cette fameuse séquence du film de Romero où une petite fille est affectée, sa mère elle veut la prendre dans ses bras, puis la petite fille se met à mordre sa mère. C'est la chose, peut-être la séquence la plus effrayante psychologiquement qu'on peut trouver dans un film de zombie. Et moi, j'ai voulu faire ça. Quand on est un zombie, on a faim. Qui est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va épargner? Qu'est-ce que puis on y prend goût finalement? Et puis, c'est le thème du zombie rejoint bien évidemment celui du cannibalisme. C'est un tabou social, le cannibalisme. Pourquoi on mange du poulet, mais pourquoi on ne mangerait pas de l'homme? Je veux dire, c'est, hein, il n'y a pas de raison, en fait. Comment on peut coucher avec sa soeur? Bref, tous ces tabous sociaux, on peut très bien les détourner. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le cadre de cette courte nouvelle. Quand je ne vous dis pas tout à fait la fin, ce qu'il mange à la fin, vous le découvrirez en achetant cette excellente anthologie. Voilà, ce qui m'intéressait, en fait, c'est, voilà, c'est le zombie. Qu'est-ce qu'il y a de zombie, comme vous et moi, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il est zombie. En supposant, bien sûr, qu'il ait encore son intelligence, ce qui est une précaution, parce que quand on est mort, ainsi que le cerveau ne fonctionne plus, mais bon, c'est un autre problème.
Justement, écoutons-nous pas la nouvelle. Je vous enverrai l'anthologie, mais à la maison de sombre aux zombies. Qu'est-ce qui se passe? Et je demandais, il y a eu un accident, oui, c'est ça. Le pendant s'est reculé, il a agité la main pour me signifier que je devais dégager d'urgence. Il m'a paru nerveux. Il regardait constamment par-dessus son épaule vers un lourd mur gris que j'ai reconnu à cet instant comme étant celui du cimetière de la commune. Un accident de corbillard. Ça aurait pu être une anecdote piquante à raconter à ma puce sous le regard réprobateur d'Émilie. Je me suis à mon tour dévissé la tête pour tenter de voir quelque chose. Il y avait trop de monde qui me bouchait la vue, des groupes agités qui se faisaient, se défaisaient sans cesse. Ça devait être sérieux. Et puis au diable tout ça. J'ai reculé, encore de peu me faire rentrer dedans par une camionnette qui arrivait droit tout. J'ai fait demi-tour. Et alors que je revenais vers lui, le type qui a failli me tamponner m'a lancé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait comme le gendarme, j'ai crié. Un accident! Mais j'ai filé. Total, j'ai mis plus de temps pour arriver à la maison que si je m'étais tapé le chemin à pied en passant par la combe. Quand je suis descendu de la voiture, de grosses gouttes éparpillées par de brusques rafales de vent commençaient à tomber vicieuses, dures comme des billets. Il était tard, le ciel montrait partout une vilaine couleur hésitant entre le violet et l'indigo. Émilie et Clem se trouvaient devant la télé, un ami couché contre le canapé. Je n'étais pas particulièrement de bonne humeur, j'ai cherché une phrase apte à fustiger mes deux femmes pour cette vilaine habitude consistant à se laisser hypnotiser par l'écran 5 ou 6 heures par jour, comme la première coiffeuse venue. Elle était coiffeuse, visiblement. Mais elle n'a pas eu tout le temps de se concrétiser dans la patte tourbeuse de mon esprit. Les deux têtes blondes s'étaient tournées vers moi, et Émilie m'a lancé. C'est dingue, on ne sait plus qui croire. Tu ne devineras jamais ce qu'on entend du info régional, il paraît que les morts sortent de terre. Ce serait même arrivé près de chez nous. Ma femme me regardait avec une expression d'absolu sérieux que démentait le sourire incertain ouvert sur les mailles de ses dents clémentes. Il faisait ses yeux en billes de porcelaine et sa bouche de canard et se curait une farine avec son index. J'ai remué les épaules et secoué la tête. La peau à l'intérieur de mon crâne était plus compacte que jamais. Je me suis raclé la gorge et marmonné. Qu'est-ce que tu dis? La lèvre hypocrite pour reculer encore un tout petit peu l'évidence, car j'avais fort bien compris. Cette fois, ça venait de commencer pour de bon. Voilà, alors les Pandores font les
évaluations. Non, mais ce qui est amusant, j'avais oublié que j'avais écrit. Non, pas oublié de dire, mais j'avais écrit la phrase ça arrive près de chez nous. C'est une référence au film, c'est arrivé près de chez nous. Pour dire que tout peut arriver, effectivement, près de chez soi. Et là, c'est là où les choses deviennent graves parce qu'on ne s'y attend pas. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Justement, qu'est-ce qu'on fait, Jérôme Noël?
Qu'est-ce qu'on fait de quoi?
passage que je vais lire. La chambre de Bradless est à l'étage. La fenêtre donne sur la rue. Un marronnier au flottage surabondant parce que la vue s'offre en hiver. La pièce n'est pas bien grande. Entre le lit, le bureau et la commode, il reste peu de place pour étaler, empiler les vêtements sales, les romans et comics. Une vieille télé, une console de jeu à laquelle Bradless n'a pas touché depuis 2 ans parce qu'elle porte cassée, une figure de Freddy Krueger dont la main griffue sert de porte-slip et un tas d'autres objets que sa mère qualifie de cochonnerie. Sur les murs et au plafond, le garçon a épinglé des affiches de films d'horreur, ses préférés, Vendredi 13, le premier, c'est un des meilleurs, c'est vrai. Le 4e et le 9e, intitulé Jason va en enfer, Massacre à la tronçonneuse, l'original de 1974 et son remake de 2003, La nuit des morts vivants. Une grande affiche d'époque achetée dans un vide-grenier que Sheila déteste plus que les autres, sont 3. Celle avec les dents suspendues du fil de fer, Bradless a jugé le film mauvais, mais l'affiche lui plaisait. Et enfin, Evil Dead, l'original, pas le remake. La première et dernière fois qu'une fille est entrée dans sa chambre, Bradless était en 5e. C'était une copine de classe qui s'appelait Betty. Elle avait tenu 5 minutes au milieu de ce musée des horreurs. Et encore, à la demande de Sheila, Bradless avait décroché la nuit des morts vivants. Par la suite, les parents de Betty s'étaient plaints auprès de ce Jason parce que leur fille souffrait depuis sa visite au cauchemar. L'histoire s'était écoulée au collège, en plus de passer pour un abruti. Bradless avait gagné la réputation de psychopathe, autant dire que sa vie sentimentale d'adolescent partait sur de mauvaises bases.
C'est la petite partie autobiographique du roman.
Ouais.
Et oui, moi je me suis intéressé d'abord à un zombie socialement intégré en fait, qui va au, à la high school, qui a des copines, donc j'ai poussé le bouchon assez loin en posant la question de la sexualité du zombie aussi, pas seulement la relation sentimentale, mais de la sexualité mécanique, à savoir est-ce qu'un zombie bande, oui, il peut. Dans certains cas, d'ailleurs, vous avez une magnifique trilogie japonaise dont je ne vous conseille pas le visionnage, qui s'appelle Rap Zombie, quelque chose comme ça. C'est une trilogie, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, mais avec des zombies qui ont des grosses. Et voilà, moi, c'était cet aspect-là qui m'intéressait. C'était en définitive de faire une espèce de. Je trouve que le zombie se marie très bien culturellement, en tout cas dans mon esprit, avec la teen comédie américaine, avec toute sa vulgarité crasse propre aux grands ados, quoi, aux young adultes. Et j'ai joué sur ces deux tableaux-là. Néanmoins, j'ai quand même conservé une bonne dose de gore sans quoi le zombie perd sens.
Le zombie, a priori, c'est le monstre, en tout cas au départ. On s'interroge, entre autres dans le roman de Mike Carey, qui est le vrai monstre. Elle doit approfondir les entailles croisées sur le devant du crâne parce qu'à cet endroit, les sinus créent une double épaisseur d'os. Après cela, elle repose ainsi pour s'emparer d'un tournevis provenant d'un titre reçu en cadeau par son père lorsqu'il s'était abonné au Reader Digest 30 ans plus tôt. La suite est délicate, ardue, afin d'élargir l'ouverture autant que possible qu'à Noël. Enfonce la tête de l'outil dans les entailles tout en s'assurant de ne jamais le plonger trop profond, ce qui endommagerait le cerveau. Le sujet pousse un soupir alors qu'il n'y a plus aucun besoin d'oxygène. Ce sera bientôt fini, promet-elle, et de se sentir aussitôt idiote. Ce n'est pas une conversation ni un vécu partagé d'aucune sorte. Celle qui que l'observe, l'air légèrement inquiète, dit au vif qu'elle doit claquer des bois puis désigne ainsi qu'elle force sa collègue à lui pendre. La voilà engagée dans un palais d'incrémentation. Affine des images, on teste le crâne avec le bout du tournevis pour voir où il bloque. On réenfonce la scie quand on rencontre une résistance afin de détacher graduellement la cale supérieure en un seul morceau. La partie la plus épineuse, et voilà, c'est fait. Quelqu'un soulève le devant de la voûte crânienne. Avec un scalpel de 10, un manche antidérapant, elle tranche dans les nerfs et les vaisseaux sanguins tout en haussant doucement le cerveau qui vient peu à peu. Dès que le tronc cérébral est exposé, elle tranche dedans aussi. Mais elle ne sait pas tout extirper. Maintenant que l'encéphale est libérée, elle tend rend le scalpel à Selkirk pour recevoir en échange des pinces, un bec rond, à l'aide desquelles elle pote, avec un luxe de précaution, les rares esquilles en fait qui se dressent au bord du trou aménagé dans le crâne. Il en faudrait, rien, il s'en faudrait d'un rien pour qu'elle rainure le cerveau pendant qu'on lui fait franchir cette.